Autre radio, autre culture, bonsoir. Émission également diffusée sur audiopeople.fr. Ce soir en compagnie de Loïc Maignan. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Nous recevons le groupe, je me lance, Slonovski Ball.
Ouais.
C'est bon. Yeah. Alors nous avons 4 musiciens sur 6. Nous avons Tosha, bonjour Tosha, qui est
bonjour.
Clarinette sax.
Voilà.
Ensuite, nous avons Antoine, accordéon et clavier.
Bonjour.
Bonjour Antoine. Branislav, qui est guitare traditionnelle et chant.
Exact, bonjour.
Il trépigne un peu parce que là, on l'a empêché de fumer.
Oui, c'est ça, exact. Alors, 6 semaines déjà, sans patch.
On va faire quelques pauses. Pour permettre de libérer monsieur.
C'est ça.
Et ensuite, nous avons Daniel, qui est bassiste et contrebassiste.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Daniel.
Bonsoir.
Alors, il manque, donc, d'après ce que j'ai compris, 2 percussionnistes. Ersoy, qui est à Derbouka.
Voilà.
Et ensuite, Volan, qui est à la percussion et au tapan.
Tapan, exactement.
Alors, Loïc nous a raconté tout à l'heure, il manquait également son cher ami Tuf.
Tuf. Qui est le sonorisateur live du groupe.
Voilà, qui est ingénieur du son, donc, et qui n'est pas là. Alors, je vais le dire à la radio, parce qu'il l'a sorti tout à l'heure, il a dit, c'est un punk en chaussons, il ne sort pas de chez lui.
Non, un punk en charentaise.
En charentaise, ben c'est pareil.
Il fait ses cadeaux de Noël. Alors.
Bien, parlez-nous donc de ce Slonovski Ball. Comment vous êtes-vous autodéterminé? Est-ce que c'est un groupe fanfare? Est-ce que c'est un groupe rock? Qu'est-ce que c'est comme type de groupe? Ah, c'est Tosha.
Non, c'est un groupe qui existe depuis un certain temps, mais qui joue surtout de la musique d'inspiration d'ex-Yougoslavie, des Balkans, plus largement, quoi. Et aujourd'hui, la formation, elle est une formation, comme on dit, électrique, avec des guitares, basse électrique, accordéon, synthétiseur, saxophone et des instruments donc plus percussifs, traditionnels, le derbouka et le tapan. C'est vrai, il y a une époque on était plutôt une fanfare, mais on a changé depuis un certain temps. Voilà.
C'était une fanfare à l'époque traditionnelle ?
Traditionnelle, enfin toujours d'inspiration traditionnelle, mais dans la façon de faire, c'est pas vraiment traditionnel. C'est inspiré grandement de la tradition, mais avec des musiciens qui habitent en France, qui vivent une vie différente, qui ont d'autres inspirations, donc... on peut dire que c'est inspiré fortement de la tradition, mais c'est une musique actuelle quand même.
Alors je m'attendais moi à voir arriver des vieux bonzes qui étaient bien ancrés dans leur musique traditionnelle avec parfois une ouverture sur l'Occident. Et je m'aperçois que j'ai en fait 4 jeunes et beaux garçons devant moi. Comment est venue cette idée de groupe finalement ?
Moi je suis à l'origine de l'orchestre, donc ça remonte à une douzaine d'années maintenant. Et en fait, donc je suis né en France, mais d'origine serbe. J'ai toute ma famille qui est en Serbie, mes parents actuellement depuis presque une vingtaine d'années, quoi. J'ai eu envie, à une époque, de revenir un petit peu aux sources de mes racines, quoi. Donc voilà, je me suis mis à faire cette musique-là il y a une quinzaine d'années à peu près. Et puis petit à petit, j'en suis venu à faire le groupe qui s'appelle Slonovski Ball, voilà.
J'ai écouté, parce que vous en êtes à votre quatrième ou cinquième album, je ne sais plus.
3 albums vendus quoi, dans le commerce et puis 2 petits disques.
Voilà, c'est voilà. Ça. Donc, c'est pour ça que je pensais au cinquième album. On s'aperçoit en écoutant le dernier album, dans les introductions, que vous cherchez des introductions beaucoup plus occidentales ou même latino, ou même jamaïcaines. Comment c'est venu cette histoire-là ?
En fait, je parle beaucoup, c'est vrai, mais il faut que j'explique un petit peu. Non, c'est juste dû aux influences qu'on a en vivant dans un pays occidental. Et puis, c'est dû à ce qu'on a écouté étant plus jeune. Pour dire qu'on n'est pas... Enfin, moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas borné à jouer de la musique traditionnelle comme je jouais il y a 200 ans. Mais parce que j'ai écouté d'autres musiques, du rock, du reggae, du jazz, de la funk, enfin tout un tas de musiques. Donc je ne suis pas vraiment borné à un style, mais c'est de la musique que j'aime particulièrement, c'est cette musique-là, la musique des Balkans, de l'ex-Yougoslavie à la Turquie, et en particulier les musiques un peu instrumentales. parce que voilà, j'aime la clarinette, le saxophone. Mais sinon, la façon d'arranger, elle vient naturellement en fonction des musiciens qui sont là. On arrange automatiquement la musique différemment que ce qui se ferait, par exemple, en Serbie ou en Macédoine. Voilà. C'est juste simplement dû à notre vie ici et à notre passif, quoi, notre expérience de la vie. Quoi. Voilà.
Dans certains de vos disques, vous parlez, surtout en parlant de votre groupe, vous parlez d'énergie nouvelle. Alors ça m'a amusé parce que franchement, on n'a pas vraiment l'impression que vous ayez besoin d'énergie nouvelle et que vous ayez besoin d'en exprimer d'autres. Alors pourquoi avoir sorti un tel truc? Ah, ça c'est Antoine. Antoine qui se lance.
J'ai été désigné, donc je vais essayer de répondre à la question. Énergie nouvelle, bah, tout le monde, je pense, recherche dans la musique sans cesse des énergies nouvelles. Enfin, moi je vois ça comme ça. Ça veut dire aussi que les cuivres, ça a une énergie, les percussions, ça a une énergie, mais aussi les instruments électriques, ça a une autre énergie, ça a un peu une autre signification. Même si du temps le groupe jouait en fanfare, il y avait déjà une énergie qui était très actuelle. Les arrangements étaient assez, voilà, comme disait Tosha, représentatifs des musiciens et du monde dans lequel ils vivaient aujourd'hui. À partir du moment où le groupe change, il y a des nouveaux instruments, il y a des nouvelles influences, des nouvelles personnes, il y a des nouvelles énergies. C'est plus dans ce sens-là, c'est l'énergie de chaque personne qui passe dans la musique, je pense. Et donc, c'est pas chercher des énergies nouvelles absolument pour dire on va changer de... on va passer au gaz ou...
Bon, c'était une blague aussi.
On dit Einstein.
C'est parce qu'on est en plein dedans, quoi. Les énergies renouvelables, oui. Tout ça.
Voilà, c'est les énergies aussi, qui se renouvellent.
Moi, j'avais compris aussi... parce qu'en fait, on est assez dans notre temps, quoi. Enfin, je veux dire... On a évolué, on a grandi dans un monde qui a beaucoup changé. On a en moyenne la trentaine, quoi, 30-40. Non, pardon. Le plus jeune a 23 ans et le plus vieux, je dirais pas. Moi, j'ai 36 ans. Voilà, mais en gros, on a grandi dans un monde quand même qui a été grandement, grandement bouleversé en très peu de temps. Et ça, c'est aussi une petite vanne, un petit clin d'œil, disons. C'est pas vraiment une vanne, c'est un clin d'œil. L'énergie renouvelable, quoi. Nous, on fait partie de ça aussi, parce qu'on donne une énergie et qu'on renouvelle sans cesse. Et on essaie de trouver le meilleur moyen de donner notre énergie de façon durable, quoi. Voilà.
Alors, question pour Antoine. Quel a été votre parcours? Parce que vous êtes français,
ouais.
Avec une culture musicale plutôt française.
Alors,
comment on arrive
à... Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui,
une culture musicale française. Bah ouais, quand on est français, enfin moi j'ai eu une formation en tant que pianiste, plutôt jazz, et après j'ai toujours écouté plein de musiques différentes, assez vite j'ai été intéressé par les musiques extra-européennes, et notamment les musiques orientales et des Balkans, et je me suis mis petit à petit à l'accordéon, parce que je cherchais un instrument un peu plus voyageur, un peu plus populaire, un peu plus transportable que le piano. Et voilà, je me suis mis petit à petit à ça et j'ai rejoint petit à petit les musiques des Balkans en faisant des voyages aussi, parce que je suis allé voir un petit peu comment ça se passait, et m'immerger un petit peu dans ces cultures. Et voilà, j'ai rencontré Tosha il y a, je sais pas, une dizaine d'années peut-être. Et j'ai rejoint le groupe il y a trois ans.
Ouais, c'est mieux.
Quel est le plus difficile dans ce type de musique?
Bah, le plus difficile quand on est français, c'est que on s'attaque à une musique qui est très ancrée dans la vie de tous les jours là-bas, et que nous, forcément, on est extérieur à ça. Et c'est vrai que c'est un autre problème aussi en étant français. On se demande quelle est la culture française, et des fois on sait pas trop répondre, parce que ça fait longtemps qu'elle a été éclatée. Là, en ce qui concerne ces musiques, c'est des zones où les musiques sont restées, sont développées un peu d'une façon un peu plus confinés géographiquement, et donc on gardait des propriétés très fortes. Et donc, quand je dis que c'est ancré dans la vie des gens, c'est très présent encore aujourd'hui à la télé, à la radio, pour toutes sortes d'occasions. Il y a beaucoup, beaucoup de musiciens, ils commencent très tôt. Donc, il y a une espèce de facilité, une espèce d'agilité, de connaissance très forte là-dedans. Et quand on arrive à l'extérieur de ça, c'est quelque chose très riche. Et c'est vrai que c'est les difficultés, c'est de saisir un petit peu l'ensemble de ces richesses-là.
Pour moi, la musique des Balkans, quoi. Enfin, quand je dis les Balkans, j'englobe aussi la Turquie, même si c'est pas tout à fait les Balkans, mais toutes ces régions, comme il disait Antoine, sont restées assez confinées pendant longtemps, et ils ont une culture musicale très forte. Et encore aujourd'hui, malgré l'ouverture des frontières et le changement de monde, quoi, et ben même s'il y a toujours, comment dire, une progression de la musique mondiale, quoi, commerciale, je sais pas comment on peut dire ça, globalisée, quoi, et ben on a encore une culture musicale très forte, ben, en Serbie, même si à côté des émissions un peu turbo folk, un peu variette, quoi, vous avez encore de la musique sur la télé, quoi. Vous voyez des vrais musiciens jouer des airs qui sont quand même anciens, quoi.
Alors, on remarque que, par exemple, dans certains téléfilms, on remarque que les compositeurs de ces musiques de films sont très souvent, je dirais pas qu'ils sont d'origine de l'Est, mais puisent la musique dans les racines de ces pays de l'Est, et surtout de l'Arménie. Et je me disais, est-ce que c'est pas une musique qui devient de plus en plus à la mode ?
Moi, vous parlez
qui répond ? Je parle en règle générale de ces musiques traditionnelles de l'Est.
Quand vous parlez de, par exemple, du doudouk, qu'on entend souvent dans des reportages, des documentaires.
Peut-être non seulement par exemple des musiques avec la clarinette omniprésente, mais avec des rythmes. Les rythmes sont de l'Est.
En tout cas, c'est sûr qu'il y a eu un avènement de cette musique, quoi, qui était assez méconnu il y a une dizaine d'années. D'ailleurs, nous, quand Slonovski Ball est né, il n'y avait quasiment pas d'orchestre de ce genre-là, même, je dirais, qui jouait ce style de musique. Moi, j'en connaissais pas. Donc peut-être ça existait, mais en tout cas, on était assez assez rare.
Sauf les grands, comme je sais pas, les compositeurs comme le Bregovic.
Oui, mais en France, moi je parle des orchestres en France. Les orchestres en France, on avait, comment dire, on était comme des pionniers, quoi, si vous voulez, en France. Mais durant les 10, un peu plus des 10 dernières années, avec les films de Kusturica, il y a eu vraiment une explosion, quoi. Bon, encore modeste par rapport à d'autres musiques, mais quand même une explosion, la mode de la musique balkanique.
Oui, tout à fait, oui.
Mais voilà, quoi, c'est une évolution qui est liée à la globalisation, quoi, à l'éclatement des frontières. Et puis, les communications ont beaucoup évolué, donc ça va beaucoup plus vite qu'avant, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a une mode actuelle sur les Balkans, c'est sûr.
Alors au niveau du chant, vous chantez en quelle langue ?
Ça dépend des morceaux. On chantait beaucoup de russe, de tzigane, aussi le serbe, langue maternelle. Voilà, en français, on ne chante pas encore. Hein. C'est ça, au niveau de langue, c'est ça. Ça dépend des morceaux, comme je dis.
Oui.
Parce qu'il y a pas mal de morceaux qui sont uniquement instrumentales, ambientales, voilà.
Est-ce que ça vous arrive par moment de chanter un peu en français, pourtant, parce que le français n'est pas génial quand même pour ces musiques très vives et très rythmées. Est-ce que ça vous arrive quand même ?
Pas encore. Nous n'avons pas exactement les morceaux qu'on va faire pour chanter de la langue française, mais... Pourquoi pas ?
C'est en fait, moi, intéressant. Ça fait longtemps que je me suis posé cette question, parce que c'est vrai que moi, j'ai la double culture. Mais vraiment, quoi. C'est-à-dire que je suis né en France, j'ai grandi en France, mais en même temps...
Excuse-moi, c'est absurde. Parce que le morceau qui se chante, par exemple, dans la langue tzigane, parce que vous ne pouvez pas changer exactement son style pour, je ne sais pas, le chanter en français, quelque chose... Que ça chante dans son racine de musique. Voilà, c'est quand vous faire un traduit d'un morceau qui se chante, je sais pas, c'est peut-être c'est pas.
En fait, si j'ai mal compris, en fait, c'est la mentalité. La langue va avec une forme de mentalité, une forme de. Une blague en serbe, c'est pas du tout la même chose qu'une blague en français. Au niveau de la langue rome, la langue tzigane, quoi, c'est encore une autre mentalité par rapport aux serbes. Par exemple, les tziganes de Serbie vont parler dans une mentalité proche. Mais les tziganes de Turquie vont parler avec, d'une autre façon.
Complètement différent.
Ça va avec la mentalité.
Non, je vais raconter ça parce que je vois en France, par exemple, la langue française a toujours du mal à se mettre au rock ou à des musiques très, très rythmées. Mmh. Et très souvent, elle a sa puissance qu'à partir du moment où elle est patois, où elle devient du patois. Et donc, on a des langues dans la langue d'oc, comme au Béarn, etc., où ils ont des musiques excessivement rythmées, et ils arrivent à appliquer les paroles en patois là-dessus. Et c'est vrai que la langue française a pour réputation d'être finalement assez difficile à chanter sur des rythmes anglo-saxons et visiblement sur des musiques balkaniques.
Le parti qui a été pris par Tocha, je pense, dès le début, je pense que c'est plus intéressant. C'est vraiment la langue, elle fait partie de la musique parce qu'elle a sa propre musicalité. Comme il disait, traduire certaines choses, certains textes, c'est quasiment impossible. Donc l'option qui a été prise en concert, c'est plutôt de dire un petit mot sur la chanson qui va être chantée pour dire de quoi il s'agit et après de la faire sonner dans sa langue, dans sa vraie langue. Et après, je sais pas, étant en France, il y a tellement de groupes de chansons françaises qui s'essayent aussi à avoir des mélodies un peu balkaniques de l'Est. Est-ce que c'est intéressant d'ajouter encore quelque chose alors que les chansons, elles sont musicales telles qu'elles sont, c'est ça?
Alors les paroles de ces chansons, elles disent quoi en règle générale?
Plein de choses.
Oui, par exemple, Shabbat Snavach.
Voilà, bah, vas-y. Spécialiste en fait. Bané Branislav. Bah, on se connaît déjà depuis quelques années, on s'est côtoyé, même on a joué à une époque ensemble. Et lui, il connaît très très bien le répertoire des chansons, de Serbie en particulier, et puis d'autres chansons, un peu de musique tzigane.
Oui, par exemple, nous avons un morceau qui s'appelle « Ochimoliu Shabbat Navash ». C'est un morceau qui vraiment, dans le concert, se passe très bien avec le public, tout le monde est comme ça, voilà, il y a des accélérations, et des pauses, voilà, chacun fait que je ne sais pas quoi, je peux dire, parce que le Tocha, il est né, ses parents ils sont nés dans, sa grand-père il est né à Shabbat, c'est une ville qui se trouve à frontière entre la Bosnie et Serbie,
voilà. C'est pas très loin de Belgrade, quoi.
C'est une vieille ville qui est connue pour un grand marché et un grand
une grande foire.
Foire, voilà. Et cette morceau de parle de beaucoup de choses qui se trouvent dans cette...
En fait, c'est une vieille chanson. C'est vraiment une vieille chanson, très connue. C'est un standard, quoi, de la musique. Et c'est une chanson pleine d'humour, voilà, qui dit « Est-ce qu'on va aller à la fête à Shabbat ?» Et puis, il y a tout un tas de refrains qui sont arrêtés. Et puis, voilà, c'est un peu théâtral. On imagine très bien ce qui se passe, quoi. Parce qu'il y a des arrêts, on parle de est-ce qu'on va faire ci, est-ce qu'on va faire ça, est-ce qu'on va boire un coup, est-ce qu'on va embrasser les jeunes filles, et tout ça. Voilà, c'est une chanson très sympa. En fait, on a choisi de chanter cette chanson parce que c'est une chanson où on peut transformer un peu les paroles sur des choses plus actuelles.
On pourrait chanter, est-ce qu'on va aller à la foire du trône ou est-ce qu'on va aller à...
Je dis, à un moment donné, est-ce qu'on va boire du Coca-Cola? Et les gens, ils disent non. Je dis, pourquoi? Parce que c'est pas bon. Je dis, on va boire de la Slivovica. Et là, tout le monde dit oui, hop, la musique part. Et...
C'est amusant parce que c'est assez similaire de ce qui se passe au niveau de la salsa, au niveau du chant. On a souvent eu des groupes de salsa ici, on les a écoutés en concert. Et souvent, il y a des réparties comme ça entre les membres du groupe où ils racontent n'importe quoi, où ils disent oui, effectivement, on va aller boire une bière avec Koutoufla, etc. Mmh. Et vive Koutoufla, le meilleur de la salsa. Et ils se jouent comme ça, ils improvisent sur de longs moments des paroles sur la musique et puis ils partent comme ça dans un délire. Et je voulais justement savoir si c'était la même chose chez vous.
Ça ressemble à peu près, oui. C'est des invitations à la fête, il y a un côté très...
Il y a en fait
un peu différent.
Il y a plein de refrains possibles et des fois il y a des refrains qui sont inventés, effectivement. Ou rajoutés, des choses qui ne se chantent pas d'habitude, on les chante. Des fois c'est... Bon, en fonction du chanteur. Ouais. Mais moi, je voulais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à pourquoi ne pas chanter en français. Mais c'est tentant, c'est vrai. C'est tentant de chanter en français. Mais le problème, c'est que déjà, c'est très difficile à chanter. Parce que ça colle pas, les intonations ne collent pas. Et puis surtout, quand on connaît l'autre langue, Ben forcément, on a envie de reproduire le sentiment qu'on a. Donc, ça colle pas si on traduit. Et ensuite, des phrases en serbe, si on les traduit vraiment textuellement en français, ça sonne bizarre. Ça sonne soit trop naïf, soit trop... C'est pas le même esprit. Il y a des choses qu'on va dire en serbe qui sont super jolies, vraiment très belles. En serbe, on comprend la beauté, l'impact poétique. Mais si on les traduit en français, ça fait bizarre. Pourquoi ? Parce que la mentalité ici a évolué. Il y a des choses qui sonneront nunuches un peu pour les Français. Mais en serbe, pas du tout. Donc, et puis après, quoi raconter ? Voilà. Quoi raconter ? C'est pas fini. Hein. Peut-être l'évolution va nous amener à chanter quelque chose en français un jour. Mais voilà, les portes ne sont pas fermées. Mais pour l'instant, c'est difficile.
Et puis ça ne s'impose pas non plus.
Non, mais ça ne s'impose pas. Mais la chose, c'est que au départ, quand le projet est né, il y avait une légitimité à faire cette musique parce qu'on faisait découvrir quelque chose d'inconnu, vraiment. C'était pour faire partager une beauté, une joie, une musique, voilà, aux gens, quelque chose qu'on aime, quoi. Donc, mais au fur et à mesure, ça a un peu changé, justement dû à la mode, le fait que cette musique soit plus répandue, et puis qu'entre-temps, les gens ne savent plus trop ce qui est vraiment l'authentique, du moins authentique. Il y a tout un tas de musiciens qui sont partis dans des voies un peu de traverse, quoi, de fusion, tout ça. Donc à la fin, les gens ne savent plus trop vraiment ce que c'est. Mais donc, aujourd'hui, il y a moins de légitimité à jouer cette musique ici. Voilà. Donc il faut trouver un lien avec la vie de tous les jours. Parce que là-bas, la musique, par exemple en Serbie, la musique c'est traditionnelle, ça fait partie de la vie, quoi. D'ailleurs, on va se fêter un mariage, célébrer un mariage ou d'autres fêtes, on va intégrer cette musique de façon complètement naturelle. Alors qu'ici, pas du tout. Ici, on va jouer occasionnellement pour le public. Donc, lors de concerts, de festivals, mais il n'y a pas du tout la même, comment dire,
fonction.
La même fonction. Bon, les années sont passées, là, les gens connaissent mieux cette musique, mais maintenant, il faut trouver un rapport avec la vie d'ici. Et c'est là qu'intervient, justement, notre créativité. Il faut qu'on trouve des solutions pour adapter ce qu'on fait ici, enfin, notre vie d'ici, quoi. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé.
Ce qui motive aussi cette ouverture-là, c'est vrai qu'il y a pas mal de fusions qui existent dans toutes les musiques, mais c'est aussi que là-bas, enfin dans ces pays-là, les musiciens, ils ne se sont pas arrêtés non plus à une certaine époque donnée, comme nous, on considère certaines musiques traditionnelles en France, parce qu'elles n'existent plus dans le quotidien des gens. Du coup, elles ont été arrêtées à un moment donné. Donc c'est y a un milieu des musiques traditionnelles, folk, en France, qui est parfois un peu sectaire, pas tous, pour dire ça c'est la musique auvergnate, ça c'est la musique du Languedoc, etc. Et alors que là-bas, non, c'est une musique qui vit toujours, qui est toujours dans le quotidien, donc qui aussi intègre, c'est des pays qui sont ouverts, qui intègrent plein de choses. On parlait des instruments électriques, des nouveaux rythmes, ils entendent de la musique latino-américaine, pourquoi pas, ils vont essayer d'intégrer des rythmes, du jazz, du rock, par contre sans que ça dénature leur façon de faire qui est propre, vraiment. Et du coup, là, c'est une musique qui évolue tout le temps, qui est tout le temps en pleine ébullition, et c'est assez étonnant de voir, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se doutent comment ça peut se passer un mariage. Par exemple, j'étais en Bulgarie cet été, et il y a un côté, une énergie qui est vraiment rock, voire punk à des moments, tellement... La musique est amplifiée, ça danse, et pourtant les vieux et les jeunes dansent. C'est une musique qui est ancrée quand même dans la culture des gens, mais elle ne s'arrête pas du tout à un truc traditionnel comme on l'entend.
Daniel, en tant que bassiste, justement, vous jouez sur plusieurs types de rythmes, parce qu'on vous voit par moments, enfin on vous entend plutôt, d'après ce que j'ai pu entendre moi dans les MP3 qui sont sur Internet, on vous entend jouer donc ces musiques un peu jamaïcaines, ou alors avec des rythmes plus jazzy, Et ensuite, vous repartez sur les accents balkaniques, musicaux. C'est pas trop difficile de jongler avec tous ces rythmes ?
Bah, difficile, aussi et non, c'est plutôt le plaisir, c'est plutôt... Ça donne le plaisir, challenge aussi en même temps. Et puis, bah justement, cette rythmique balkan, c'est quand même la base, cette rythme. Et puis, bah forcément, ce qu'il disait tout à l'heure, toi, chez Antoine, on forcément, c'est influence de tout ce qui nous entoure. Là, en France, en l'occurrence, parce que là, c'est quand même... c'est une ville du monde, quand même. Tout est là, quoi. On trouve tout ici.
Oui, c'est vrai.
Et puis, même si tout est accessible, en même temps, il y a l'Internet, il y a les radios, il y a tous les médias. Donc, forcément, on s'enrichit. On essaye voilà, d'intégrer un peu tout ce qui nous entoure dans ce qu'on fait actuellement. C'est, voilà, ce qui dit Tocha tout à l'heure, c'est pas fini, c'est pas tout est en permanente évolution et le recherche. Ouais, voilà.
D'ailleurs, notre formation actuelle, elle a presque un an, quoi.
Oui, ça fait un an qu'on est.
Presque un an qu'on a stabilisé cette formation, quoi. Et puis, donc voilà, il y a plein de choses à découvrir encore. C'est vraiment, disons, c'est une nouvelle page de ce groupe-là, quoi. Pendant très longtemps, c'était une fanfare. Et puis voilà, là on continue la musique, mais...
Mais c'est une autre sonorité, ça reste quand même...
Nouvelle orchestration,
la base, mais voilà.
Nouvelle orchestration et des nouvelles possibilités. Oui. On n'avait pas avant, on avait la sonorité plus des cuivres, quoi, qui était très forte, qui était très puissante, et c'était quelque chose de bien. Mais grâce aux guitares, à basse, l'accordéon, les claviers, tout ça, on a beaucoup, beaucoup de possibilités de partir ailleurs. Et on peut très bien faire la musique traditionnelle pure et dure, comme de la fusion, du jazz, n'importe. On peut vraiment aller très loin.
Et comment le prennent vos fans, ce changement, ce tournant musical ?
Ben, c'était une appréhension. Puis en fait, je me suis aperçu que plein de gens qui nous avaient déjà vus il y a quelques années, ils ont dit c'est super, mais je crois qu'ils n'ont même pas relevé vraiment... Parce qu'en fait, la musique, elle reste assez proche, quoi. Et puis, vous savez, le mot fanfare, c'est un mot que je déteste. C'est vraiment un mot, c'est une étiquette qu'on colle, voilà. Il faut absolument, à chaque fois qu'on fait quelque chose, coller, parce que c'est dans le système du capitalisme. C'est aujourd'hui, c'est comme ça. Toujours, depuis toujours, faut donner une étiquette... à ce qu'on fait, à ce qu'on vend, à ce qu'on...
C'est très français, ça, en règle générale.
Oui, mais en fait, moi, par exemple, fanfare, j'ai toujours détesté ce mot-là. Malheureusement, qu'on le veuille ou non, s'il y a des cuivres, ça, c'est une fanfare. Voilà. Sauf que, pour moi, c'est d'abord de la musique. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'orchestration est très différente. Et pourtant, la musique, c'est pour moi, c'est la même musique. Peinte d'une autre façon, quoi.
Je crois aussi qu'on a le problème en France d'avoir les fanfares locales qui sont très souvent très mal jouées, en fait. on a les fanfares des cavalcades où il y a la fanfare de quartier où ils peuvent pas jouer un morceau sans faire, je sais pas, une portée de musique fausse. C'est assez abominable. Et on est loin de ces fanfares, que ce soit dans les pays anglo-saxons ou d'ailleurs, qui sont excessivement justes et qui jouent très très bien. Et
je pense que c'est pour ça. Chose, là, qui parle de ça, justement.
Et je pense que c'est le problème de la France où le mot fanfare est pratiquement devenu péjoratif. Alors on essaye de remettre un petit peu...
Y a pas que ce mot-là, y a tout un tas de mots. Par exemple, la musique tzigane, ça veut rien dire du tout. Parce que les tziganes, il y en a partout dans le monde. Il y en a en Inde, il y en a en Amérique du Sud, il y en a en Égypte, en Turquie, en Angleterre, en France. Et quand on dit la musique tzigane, alors les gens tout de suite...
Mais forcément, on associe musique tzigane de Balkan. Quand on dit musique tzigane, ça veut dire qu'on pense tout de suite à...
Ça dépend, il y a des gens qui pensent musique russe, il y a des gens qui pensent musique hongroise avec du violon, des tsardas, il y a des gens qui vont penser... Alors qu'en fait, les tziganes, ils jouent la musique de là où ils sont, en fait, avec leur sensibilité à eux.
Ça, si on dit musique tzigane, on dit musique tzigane de Thrace, de Turquie, de Serbie, de Macédoine, de Russie, de Pologne, de...
La manouche en France.
Voilà, jazz manouche. Voilà, c'est ça, c'est la force du commerce, quoi, je sais pas.
C'est comme en France, on...
Mettre des étiquettes qui sont même parfois fausses, quoi.
Ce que tu avais dit une fois, c'est que quand on fait partie d'une fanfare en France, on est un peu considéré comme des fanfarons, à savoir que c'est du coup un groupe destiné à faire de l'animation, à jouer dans la rue, peu importe s'il joue juste, en rythme ou pas. Et c'est d'abord faire du bruit et faire la fête. Donc c'est une part de la vérité, mais ça réduit beaucoup le champ des possibles en ce qui concerne jouer sur scène.
Ah bah dans le quartier, vous parlez de fanfare, on pense tout de suite à la fanfare des Beaux-Arts.
Oui,
voilà. ils sont bien mignons, ils sont très gentils, succès. Qui a un certain succès, mais ils jouent faux.
Oui, voilà. Non mais après c'est super, moi je trouve qu'il y a des fanfares qui jouent juste et qui jouent faux. Après je comprends Tosha à un moment donné qu'il ait voulu sortir de ça, parce que c'est un champ restrictif. La plupart des propositions sont pour... On ne comprend pas pourquoi on veut jouer sur scène, mais pourquoi vous ne jouez pas dans la rue, parce que vous êtes une fanfare, vous n'avez qu'à jouer en marchant. Enfin, c'est un autre...
Fin de la première partie de l'interview du groupe Slonovski Ball, que vous retrouverez la semaine prochaine. Ici, autre radio, autre culture. Au revoir. Autre radio, autre culture.